Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Nous allons aborder un sujet délicat ce soir car il touche à notre conscience. La liberté de conscience et de religion est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 18. Alors je cite, « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on reconnaît un droit à l'objection de conscience. Pourtant, aujourd'hui, certaines associations catholiques militent et montent au créneau pour que ce droit soit reconnu officiellement. Elles voudraient que des médecins puissent user de leur droit à l'objection de conscience s'ils ne veulent pas pratiquer l'avortement ou l'euthanasie, par exemple. Et pourquoi pas aussi le droit à l'objection de conscience pour des bourgmestres qui ne voudraient pas célébrer un mariage homosexuel. Pour faire le point sur ce dossier et pour tenter de faire la part des choses entre clause de conscience, objection de conscience, désobéissance civile. Nous recevons ce soir deux invités. Tout d'abord, Jacqueline Hermans, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, membre aussi du comité consultatif de bioéthique. À vos côtés, Pierre-Arnaud Perrouti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fédération humaniste européenne, responsable aussi de la cellule Europe et internationale au Centre d'action laïque. Et vous êtes tous les deux aussi diplômés en droit. Alors pour clarifier le débat dès le départ, qu'est-ce qu'on entend exactement par les termes clause de conscience et objection de conscience? Alors clause de conscience peut-être d'abord, Jacqueline Hermans.
Si l'on parle de clause de conscience, pour ce qui concerne la Belgique, nous pensons tout de suite à deux lois, la loi relative à l'euthanasie et la loi relative à l'avortement. Ce sont des lois qui reconnaissent l'autonomie de la personne. Mais en même temps, je dirais que puisque autonomie il y a, il faut que l'on respecte la conscience de toute personne qui pourrait se voir impliquée dans le processus. Dès lors, il est logique que l'on ait inclus une clause de conscience qui permet à toute personne de dire qu'elle ne veut pas, par exemple, participer à un processus, que ce soit maintenant un médecin ou une autre personne qui fait partie du personnel soignant, infirmière, kiné, etc., ou encore un pharmacien, mais avec, je dirais, certaines limites. Les limites, c'est notamment le fait que le médecin doit référer le dossier à un autre médecin. Aujourd'hui, malheureusement, en ce qui concerne notre législation, nous n'avons pas des balises suffisamment précises quant à cette obligation de référer.
Donc pour être clair, aujourd'hui, dans la loi sur l'euthanasie et la loi qui autorise ou qui dépénalise partiellement l'avortement, il y a déjà cette clause de conscience existe et les médecins peuvent l'utiliser.
Absolument. Et lorsqu'on a travailler pour écrire ces textes, la chose nous paraissait logique, puisqu'on ne voit pas la possibilité de forcer un médecin à pratiquer un avortement ou à pratiquer une euthanasie alors qu'il aurait une objection par rapport à cet acte, que ce soit du point de vue philosophique, religieux ou tout autre.
Alors aujourd'hui, certains milieux catholiques réclament ce qu'on appelle du coup un droit à l'objection de conscience. En quoi est-ce que ça va plus loin, Pierre-Arnaud ?
Mais vous l'avez rappelé en commençant, la liberté de conscience, effectivement, c'est un droit qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais au-delà par tous les textes qui défendent les droits fondamentaux. On peut citer la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, même le Pacte international pour les droits civils et politiques. Tous les textes la consacrent et c'est fondamental. C'est lié à l'essence même d'être humain, donc c'est tout à fait normal. Et les laïcs, comme tout le monde, défendent évidemment le droit à la liberté de conscience. Et c'est tellement vrai que c'est un des rares droits absolus dans le système des conventions. Il n'y a pas de limite à la liberté de conscience, même s'il peut y avoir des limites à la liberté d'expression par laquelle on exprime cette conscience. Mais la liberté de conscience en tant que telle est absolue. Le problème, effectivement, c'est que certains milieux, la religion catholique en particulier, essayent de dériver de ce droit à la liberté de conscience, ce droit absolu, un droit absolu à l'objection de conscience. Et c'est là que le saut s'opère et sur lequel il faut dire que non, évidemment, il n'y a pas de, bien sûr, il y a un droit à la conscience, mais il n'y a pas pour autant un droit absolu à l'objection de conscience. Donc, si vous voulez, ils essaient de tirer profit de ce droit pour étendre et obtenir une sorte d'exemption généralisée à toutes les lois qui ne leur plaisent pas, à commencer évidemment par les lois sur l'euthanasie ou les lois sur le mariage homosexuel.
D'autant que ça commence à poser problème dans certains pays, notamment on sait qu'en Italie par exemple, plus de 90% des gynécologues mais aussi des anesthésistes refusent de pratiquer par exemple l'avortement, ce qui pose clairement un problème de santé publique pour les femmes en Italie.
Cela pose un problème énorme parce que, soyons clairs, une femme qui fait la démarche de demander un avortement se trouve déjà confrontée à une série d'obstacles. Donc, si elle doit par ailleurs encore se heurter à cet obstacle qui est l'objection de conscience d'une façon large, quel va être le cheminement qu'elle pourra encore opérer? Et c'est là où on voit justement que l'objection de conscience est une perversion de la clause de conscience, dans le sens que nous avons tout respect par rapport à l'objection de conscience, dans le sens, par exemple, pacifisme, etc. Mais ici, on est dans un autre contexte. C'est en fait objecter pour ne pas permettre à une personne d'exercer un droit à une liberté.
Oui, donc en gros, c'est effectivement détourner, enfin contourner des lois qu'on n'accepte pas par cette manière-là.
Oui, effectivement, les lois qui comprennent une clause de conscience, celle dont on a parlé, hein, euthanasie, avortement essentiellement, sont le produit d'un rapport de force à un certain moment politique pour les faire adopter, mais aussi parce qu'on doit tenir compte sans doute de la conscience du médecin pour l'autoriser à ne pas commettre un acte qui va vraiment à l'encontre de ses convictions. Mais c'est clair qu'on ne peut pas l'étendre non plus à tout le monde, qu'on ne peut pas l'étendre à du personnel administratif par exemple, que des institutions en tant que telles n'ont pas de conscience et donc ne peuvent pas se réclamer de l'objection de conscience. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que là où ces groupes religieux perdent du terrain, donc perdent le combat politique contre une loi qui permet l'avortement ou qui permet l'euthanasie, elles essayent de détourner ça et d'attaquer autrement en encourageant les médecins ou éventuellement les maires ou les bourgmestres, comme vous le disiez, à ne pas pratiquer une IVG ou ne pas célébrer un mariage homosexuel. Donc c'est vraiment une manière d'essayer de contourner la loi, et ça va très très loin puisque ça touche même des entreprises privées parfois qui se réclament de leurs propres convictions religieuses pour refuser un service à des couples homosexuels par exemple.
Et en fait, c'est une construction que l'on a vue s'établir au fil du temps, notamment le lexique des termes ambigus concernant l'éthique, qui est un travail qui est fait au niveau du Vatican, très clairement pose la question de l'objection de conscience. Et cette objection de conscience est aujourd'hui, je dirais, présente en doctrine du côté catholique essentiellement, du côté de toute personne en réalité qui avait éventuellement le monopole par le passé, on ne se posait pas la question du divorce, on ne se posait pas la question de l'avortement, on ne se posait pas la question de l'euthanasie. Et la personne qui aurait voulu objecter à l'époque, prenons le 19e siècle au point de vue du divorce, évidemment, il n'y avait pas de droit à l'objection de conscience à cette époque-là. Donc ce qui veut dire, c'est vraiment parce que je dirais que l'Église catholique ou les Églises ont perdu en quelque sorte le monopole des lois, de la législation, que cette objection de conscience est aujourd'hui portée au pinacle et valorisée. Mais vraiment, encore une fois, il faut souligner, c'est à chaque fois, non pas pour, je dirais, respecter uniquement sa conscience, mais c'est essentiellement pour s'opposer à des droits et libertés qui sont consacrés par la loi.
Oui, on avait par exemple l'exemple de Michel Skoniens, donc professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, qui dans un de ses écrits appelait à un appel évangélique à la résistance, donc vraiment cette objection de conscience dans ce sens-là, assez forte.
Cela va très loin, parce que cet appel est adressé également à des magistrats qui seraient par exemple appelés à ne pas prononcer des divorces. Mais donc pour tout ce qui concerne le droit de la famille avec, je dirais, l'évolution que l'on connaît au point de vue de la relation filiale, etc., au point de vue des mariages de même sexe, etc., eh bien là on voit qu'il y a un appel à la désobéissance, mais c'est un appel qui va vers le législateur, qui va vers les représentants des pouvoirs exécutifs, judiciaires et donc législatifs, donc qui s'adresse en fait à nos organes démocratiques et qui nie en quelque sorte les lois qui sont votées démocratiquement au sein de nos parlements.
Pierre-Arnaud Perrouti, il y a encore quelques jours, donc en mars dernier, à Genève a été organisé un colloque sur le droit à l'objection de conscience pour le personnel médical dans le cadre de l'ONU. Ça veut dire que ces voix sont quand même de plus en plus entendues, elles arrivent à se faire entendre de plus en plus au niveau européen, au niveau mondial.
Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'une bataille concertée, d'une offensive concertée au plus haut niveau de l'Église catholique et qui est portée sur tous les fronts. De tous les côtés, on voit le recours à l'objection de conscience comme cheval de Troie pour essayer de encore une fois de contourner ou de ne pas respecter certaines lois. Et on voit ça en Europe, bien sûr, mais on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Amérique latine, on voit ça en Asie, bientôt en Afrique certainement. Donc au fur et à mesure que ces lois progressent, systématiquement, ils utilisent la même chose parce que, de leur point de vue, c'est très facile de se déguiser sous une apparence de défendre un droit fondamental, un droit humain fondamental qui est encore une fois la liberté de conscience. Et puis ils font ce saut dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a la liberté de conscience, eh bien on a le droit à l'objection de conscience. Et c'est là que non, on peut pouvoir éventuellement, enfin on peut défendre le droit à l'objection de conscience, mais à condition de l'encadrer strictement, à certaines conditions, et surtout à condition que les gens puissent exercer leurs droits fondamentaux, et que les femmes en Italie puissent exercer leur droit à une IVG, que les hommes ou les femmes, les couples gays puissent se marier en Belgique ou en France ou partout où c'est autorisé.
Mais c'est-à-dire que du coup, comment faire pour garantir cette liberté de conscience et la liberté de conscience religieuse notamment à toute une série de personnes, et en même temps garantir les droits fondamentaux et le respect des droits humains aux autres personnes.
Les textes, normalement, sont là pour les garantir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a évidemment une certaine perversion. Il y a ce que l'on pourrait appeler aussi un certain hold-up, un certain hijacking de ces notions. Donc, ce qu'il faut aussi faire, puisqu'on a pensé en toute bonne foi qu'il était important de mettre la clause de conscience pour des lois concernant l'avortement, l'euthanasie, ce qu'il faut prévoir, ce sont des limites. Des limites qui permettent à chacun de se retrouver, tant la personne qui demande, par exemple, l'avortement ou qui demande l'euthanasie, que la personne, personnel soignant en général, qui éventuellement ne se retrouve pas en face avec cette demande. Mais il faut être très précis et il faut permettre également, il faut prévoir que dans les institutions, dans les services hospitaliers, il y ait toujours la possibilité de donner une réponse à la personne. Donc, information certainement, mais également la possibilité pour la personne d'être référée ou de se référer à une autre personne qui voudra effectivement procéder à une euthanasie ou un avortement. Et ce que je dirais par rapport au maire, au bourgmestre, la réponse est très simple. Une personne qui s'engage, qui se porte candidate, qui veut devenir bourgmestre ou qui veut devenir maire, a une notion très précise de ses obligations, de ses devoirs. Et ses devoirs, c'est par exemple de procéder à des mariages. Si cette personne estime qu'elle ne pourra pas le faire, la réponse est très simple. Qu'elle ne se présente pas comme candidate pour devenir maire ou bourgmestre ou d'autres fonctions. On a le choix dans la vie. Mais donc le choix que l'on doit poser, qu'on doit prendre, doit être également en fonction des droits et libertés des autres. Qu'un personnel soignant, par exemple, soit dans l'idée que l'on peut refuser à une femme, à un homme, certains droits qui sont prévus, certaines libertés qui sont prévues, cela pose une question, justement, des devoirs et obligations qui reposent sur le personnel soignant.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre-Arnaud Perrotin?
Oui, je trouve que c'est compliqué. À la fois, je rejoins complètement ce que dit Jacqueline Hermance. En même temps, il y a le cas des bourgmestres ou des maires qui ont été élus à une certaine époque, et puis la loi change entre-temps. Alors, est-ce que ça doit les forcer à démissionner? Pareil pour un médecin. Pareil pour un médecin qui est gynécologue. Est-ce qu'on doit lui dire, écoutez, vous travaillez dans un pays où l'IVG est légal et c'est très bien. Est-ce que ça veut dire que si vous faites cette spécialité-là, vous devez accepter de faire des IVG? En même temps, je pense qu'aucune femme ne voudrait subir une IVG par un médecin qui ne veut pas la pratiquer. Donc je trouve que c'est compliqué comme question. Par contre, ce qui me semble assez fondamental, c'est que autant on peut, dans certains cas, encadrer, comme vous dites très bien, autoriser l'objection de conscience ou autoriser des clauses de conscience, autant ce qui me paraît fondamental, c'est que le poids de ce choix ne repose pas sur les femmes en particulier ou sur les couples homosexuels qui veulent se marier. Je m'explique. Il suffit pas que le médecin soit obligé de référer à un autre médecin pour prendre l'exemple d'une IVG, et que ce soit ensuite à la femme éventuellement de devoir reprendre une autre après-midi de congé pour ensuite prendre un autre rendez-vous, repayer un déplacement et reprendre du temps. Il faudrait pouvoir trouver un système d'organisation qui fait que ce sont les hôpitaux ou les médecins qui prennent en charge tout l'aspect d'organisation et qu'une fois qu'une femme demande un rendez-vous en vue d'une IVG, soit directement confrontée à quelqu'un qui accepte de le faire dans le cadre légal du pays où ça se passe. Donc, éventuellement clause de conscience, oui, à certaines conditions, mais les conséquences du fait d'objecter ne peuvent pas reposer sur les patients, doivent être pris en charge intégralement par les médecins ou par les hôpitaux.
Par la société en général.
Oui, donc il faudrait s'assurer qu'effectivement elle soit directement aiguillée vers la bonne personne, enfin dans le cas d'une femme ou d'une personne qui voudrait par exemple avoir une euthanasie, ce serait effectivement qu'on l'aiguille directement vers une personne qui accepte de pratiquer l'euthanasie.
C'est-à-dire qu'il y ait des centres, que par exemple chaque hôpital ait la possibilité de donner l'information nécessaire et que chaque hôpital, chaque institution médicale, parce qu'il y a aussi les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, puisse donner une réponse adéquate. En gardant donc la possibilité pour une personne, je parle bien d'une personne, une personne physique d'invoquer la clause de conscience, mais en même temps de permettre à la personne qui postule, qui demande que ce soit avortement, IVG, etc., de recevoir une réponse. Pour ce qui concerne la question des bourgmestres et maires, finalement, c'est un faux problème, parce qu'on trouvera toujours un adjoint au maire ou un échevin qui, éventuellement, pourra remplacer le bourgmestre ou le maire qui aurait fait une part du fait que cela va à l'encontre de sa conscience. Et en plus de ça, l'évolution de la société est telle que demain, pour les élections qui vont venir, les futurs bourgmestres ou maires seront conscients qu'effectivement, dans leur tâche, il y aura éventuellement des mariages à célébrer pour des couples homosexuels.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale avec une chanson qui illustre un autre cas d'objection de conscience. C'est celle revendiquée par les jeunes gens qui refusaient le service militaire. On va écouter Serge Reggiani avec « Le déserteur ».
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle aujourd'hui d'objections de conscience et plus particulièrement d'une revendication qui monte au sein d'une partie de la communauté catholique européenne, celle du droit à l'objection de conscience. Avec nos deux invités ce soir, Jacqueline Hermans, présidente de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Pierre-Arnaud Perrouti, directeur de la Fédération humaniste européenne. Alors, on vient avec cette chanson d'entendre le cas d'une objection de conscience plutôt dans le cas du service militaire. En quoi l'objection de conscience dont on a parlé depuis le début de l'émission, donc dans le cas d'euthanasie, dans le cas d'avortement, dans le cas d'éventuellement de mariage homosexuel, en quoi est-ce différent de cette objection de conscience classique, historique du service militaire ?
La différence réside déjà dans le fait que l'objecteur de conscience qui refusait d'aller au service militaire ou qui refusait éventuellement d'être recruté par l'armée, c'est un geste qui pose et qui n'engage, je dirais, que lui, c'est-à-dire qui n'engage que lui aussi au risque à une époque d'être emprisonné, et c'est encore le cas d'ailleurs dans certains pays. Il ne faut pas croire que parce que nous avons obtenu un statut pour les objecteurs de conscience dans la plupart des pays européens, cette question ne se pose pas ailleurs. Et donc avec le risque éventuellement, j'ai connu des amis qui effectivement étaient objecteurs de conscience et qui ont passé quelques semaines en prison. On veut défendre une cause. On veut défendre une cause qui est le pacifisme, et les conséquences de l'acte que l'on pose reposent sur la personne elle-même. Donc c'est ça la différence aussi avec la clause de conscience, c'est que la clause de conscience implique un tiers, dans le sens que on va éventuellement refuser d'accorder un droit, une liberté à un autre que soi. Donc c'est un petit peu là que je vois déjà cette différence au point de vue de la clause de conscience et l'objection de conscience. Mais évidemment, pour moi, l'objection de conscience reste avec cette notion de pacifisme. Autre chose serait d'envisager l'objection de conscience, et elle a été très peu appliquée, par rapport, par exemple, à des militaires à l'époque du nazisme ou des fonctionnaires à l'époque du nazisme qui auraient effectivement fait une objection de conscience. Mais encore une fois, les conséquences auraient été pour eux-mêmes.
Oui,
et c'est eux qui auraient
entière,
eu à supporter les conséquences.
Un ajout, Pierre-Arnaud?
Oui, moi, je partage complètement. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que pour moi, il y a aussi dans le service militaire un rapport d'obligation avec l'État, puisque le service militaire dans beaucoup de pays était obligatoire. Donc l'État imposait aux gens de faire un service militaire, et donc l'État quelque part était responsable de devoir fournir une alternative ou de permettre au minimum une alternative à ceux qui le refusaient au nom de leur conscience. C'est pas tout à fait la même chose que quand on cherche à exercer un droit. Là, on était dans un rapport d'obligation, et c'est tellement vrai que il y a une jurisprudence assez abondante de la Cour européenne des droits de l'homme pour reconnaître le droit à l'objection de conscience par rapport au service militaire. Et c'est même le seul domaine assez étroit où la Cour reconnaît un droit général à l'objection de conscience, mais uniquement par rapport au service militaire. Et de nouveau, ces associations ou ces groupements religieux essayent d'utiliser ça en disant « Vous voyez, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu un droit général à l'objection de conscience », sauf qu'ils oublient de préciser que c'est uniquement par rapport au service militaire. Et effectivement, la situation est assez différente d'autres cas sous des régimes totalitaires. On est plus dans la résistance à l'oppression finalement que dans
la
désobéissance civile.
Mais voilà, justement, si par rapport à ce concept de désobéissance civile, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, ben, voilà, une personne qui refuse finalement la loi de l'État, il fait un acte de désobéissance civile?
Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'objecteur de conscience refuse d'être soumis à une loi, mais ne demande pas qu'on la change. Typiquement dans le service militaire, c'est-à-dire moi je ne peux pas faire mon service militaire pour des questions philosophiques ou religieuses, mais je ne vous demande pas d'abolir la loi sur le service militaire. Moi médecin, je refuse de pratiquer l'IVG, mais je ne vous demande pas d'abolir la loi qui autorise l'IVG en Belgique ou ailleurs. Tandis que dans le cas de la désobéissance civile, c'est justement, au-delà de la dimension plus personnelle, plus philosophique, on rentre dans une dimension politique puisque le but de la désobéissance civile, c'est de faire plier le gouvernement pour faire changer une loi. Donc là, on entre dans un mouvement de résistance, de rapport de force pour, par exemple, abolir la loi sur l'IVG si on estime que c'est mal ou abolir le service militaire obligatoire. Donc on n'est pas dans la même dimension. Dans un cas, on est dans une sphère plus personnelle et plus philosophique. Dans un autre cas, on est dans une démarche véritablement politique.
Alors, on l'a dit, donc cette clause de conscience, elle concerne des personnes, des individus, puisque la conscience par nature est personnelle, est individuelle. Et en même temps, on parle de plus en plus d'une espèce de clause de conscience institutionnelle. Alors en Belgique, la polémique avait été relancée par Joseph de Kessel au moment où il était nommé donc, comme nouveau primat de Belgique. Il avait estimé que certains hôpitaux catholiques notamment auraient le droit de décider de ne pas pratiquer par exemple l'euthanasie et l'avortement. Et là, ça remet en cause ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir directement être adressé à la bonne personne qui accepterait l'IVG, qui accepterait l'euthanasie.
Ça remet en cause principalement ce que vous venez d'évoquer, mais ça remet aussi en cause la liberté thérapeutique du médecin, parce que cela veut dire que dans les institutions où l'on interdirait de pratiquer l'avortement ou l'euthanasie, les médecins qui voudraient répondre à des demandes seraient dans une situation pour le moins inconfortable, avec éventuellement, je l'attends toujours, je ne l'ai pas connu, mais un licenciement, avec éventuellement une rupture de contrat, parce que ce médecin n'aura pas respecté soit peut-être une clause de son contrat de travail, parce que certains contrats de travail prévoient précisément que dans tel établissement, il n'y aura pas de possibilité de pratiquer l'avortement ou l'euthanasie. Cela remet en cause vraiment le problème d'un docteur, d'un médecin qui voudrait respecter la demande d'un patient, d'une patiente, conformément à la loi, qui ferait cet acte tout à fait en conformité avec la loi, mais qui se retrouverait éventuellement avec des explications données à sa direction. Donc, il n'y a qu'un seul cas qui est prévu dans la législation en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler une clause institutionnelle, c'est concernant les centres de fertilité, puisque les centres de fertilité peuvent poser des limites à leurs interventions. Mais en plus de ça, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'information est donnée. En revanche, par rapport à ces clauses institutionnelles qui sont souvent cachées sous des protocoles ou des contrats de travail auxquels on ne peut pas accéder, cette information n'existe pas.
Alors juste peut-être un dernier mot pour conclure, Pierre-Arnaud Perrouti, c'est que voilà, ces offensives de certains mouvements catholiques principalement, est-ce que vous avez l'impression que, bon, elles s'accentuent, ça on l'a dit, mais est-ce que vous avez l'impression que petit à petit, elles risquent d'arriver à leur fin, c'est-à-dire que cette droit à l'objection de conscience, petit à petit, fait quand même son chemin dans la tête de certains parlementaires européens éventuellement?
Ben oui, je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'au fur et à mesure que des lois que nous favorisons et qui déplaisent aux autorités catholiques, en particulier sur le mariage homosexuel, sur l'euthanasie, sur l'avortement, la recherche sur l'embryon, au fur et à mesure que l'Europe se sécularise et que ces lois progressent dans les pays, parce que si on regarde sur les 10-15 dernières années, elles sont quand même en progrès, il y a de plus en plus de pays qui les adoptent, et bien au fur et à mesure où ces lois progressent, au fur et à mesure, on va voir monter en puissance l'objection de conscience, puisqu'ils perdent sur le terrain politique, ne sont pas non plus en mesure de s'opposer à ces lois, ils vont essayer de faire reconnaître l'objection de conscience ou le droit à l'objection de conscience de manière générale pour tout ce genre de loi qu'ils détestent par excellence. Et donc, certainement, on va y être confronté. Il va falloir être attentif à bien rappeler les limites. Et j'espère que la Cour européenne des droits de l'homme restera sur la ligne qui est la sienne aujourd'hui et ne tirera pas, ne dérivera pas de ce droit à l'objection de conscience, encore une fois limité au service militaire, plus largement dans d'autres situations.
Donc, un sujet sur lequel il faudra donc rester vigilant. En tout cas, Jacqueline Hermance, Pierre-Arnaud Perrouti, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette question. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau Rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous. United.